Bible, comment je te lis aujourd'hui, c'était le thème de la 56e rencontre œcuménique de Belloc qui s'est déroulée le jeudi 1er mai 2025 au monastère Sainte-Scolastique des Bénédictines à Urte. Deux intervenants ont pris la parole lors de cette 56e rencontre œcuménique de Belloc, le pasteur Corinne Lanoir qui enseigne l'hébreu et l'Ancien Testament et le père Michel Garat, bibliste. Aujourd'hui, nous vous proposons d'entendre l'intervention du pasteur Corinne Lanoir.
Alors bonjour à tous et à toutes. J'ai été pendant une quinzaine d'années professeur d'Ancien Testament à la faculté donc de théologie de Paris, protestante. Et avant ça, j'ai travaillé en Italie, j'étais directrice d'un centre œcuménique à Agapé, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, dans les vallées vaudoises. Et puis j'ai enseigné au Nicaragua aussi pendant plusieurs années la Bible. Et j'ai été animatrice biblique dans différentes régions de France auparavant aussi. Voilà, on va dire ça. Et donc, l'essentiel de mon travail a été de lire la Bible avec des groupes de gens très différents, sous des cieux très différents. Et ça a été une expérience extrêmement enrichissante et pour moi très très importante. Voilà, alors on m'a demandé de parler une petite demi-heure, hein, c'est ça, sur Bible, comment je te lis. Donc voilà, bon, je vais faire quelques... j'ai regroupé ça en 4 ou 5 points. D'abord, il faudrait peut-être s'interroger, mais on ne va pas faire ça maintenant, sur c'est quoi la Bible, hein, parce que quand on dit la Bible, ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Déjà entre nous catholiques, protestants et orthodoxes, on n'a pas forcément le même canon, hein, on n'a pas forcément la même liste de textes dans nos Bibles, et elle n'est pas en plus dans le même ordre. Donc la Bible avec un L majuscule, si vous voulez, ça, en gros on pourrait dire ça n'existe pas. Il y a des Bibles différentes dans leur canon, dans leur organisation, dans leur traduction aussi, hein, et tout ça, ça compte. Hein. Je vous donne juste un petit exemple, on va faire comme ça des exemples, parce que ça permet mieux de comprendre. Vous avez peut-être en tête ce passage au début de l'évangile de Luc, quand Jésus entre dans la synagogue, hein, il va chercher un rouleau, il se lève et puis il lit un texte, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Enfin, vous voyez ce texte, on va peut-être le relire, attendez. Je crois que c'est Luc 3, si je me rappelle bien. Moi, je suis prof d'Ancien Testament, hein, alors... Luc 4, ah ben voilà. Alors, voilà. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Parce que Jésus, il ne faut jamais oublier ça non plus, il était juif. Il n'était pas chrétien, Jésus. Ça n'existait pas, les chrétiens de son temps. Il se leva pour lire les Écritures. Alors, vous voyez déjà, c'est quoi les Écritures à cette époque-là? Il n'avait pas, comme moi je viens de faire là, un livre sous la main pour le prendre et le lire. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc ça veut dire que c'était pas un livre, c'était un rouleau, hein, et il y avait des rouleaux comme ça différents selon les livres, et effectivement on pouvait beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui changer l'ordre des textes, puisque c'était des rouleaux individuels. Il déroula le rouleau de ce livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les hommes maltraités, pour annoncer l'année où se manifestera la faveur du Seigneur. Donc là, si vous voulez, on a un texte, nous, écrit, hein, dans cette Bible, écrit pour nous en français, hein, qui parle d'un Jésus qui est dans une synagogue, qui ouvre un rouleau du livre d'Ésaïe, hein, et qui lit le texte. Donc normalement, on pourrait penser qu'il le lit en hébreu dans la synagogue. Mais si on regarde comment le texte du Nouveau Testament, qui est écrit en grec, raconte ça, il ne donne pas la version de l'hébreu, mais il donne la version grecque. qu'on appelle la version des 70. Donc vous voyez, vous avez là-dedans de l'hébreu, du grec, du français, des bibles différentes, et tout ça dans une synagogue. Donc la Bible, c'est tout ça. Et c'est toute cette vie comme ça d'échange et de différence entre différents textes. C'est donc à la fois un long processus historique, hein, si on retravaille comment se sont formés les livres, il y en a pour un moment, et il y a cet écart entre aussi l'écrit et la parole. On dit souvent la Bible c'est la parole de Dieu, d'accord, mais ça veut dire quoi ça? Parce que est-ce que c'est ce qui est écrit chaque mot qui est la parole de Dieu? Est-ce que c'est le moment où c'est écrit inspiré par l'esprit, par le fait qu'on le lit à plusieurs, par toutes sortes de choses, devient une parole? C'est, il y a là toute une série de questions sur lesquelles on pourrait discuter un moment. Et puis l'autre chose, c'est que je pense qu'on peut dire que en général la Bible, c'est une littérature de crise. C'est-à-dire que le fait qu'on ait écrit ces textes vient de moments de grosse crise. Alors, pour l'Ancien Testament, c'est clairement le moment de l'exil à Babylone. Les Juifs, donc, à un moment, sont envahis par les Babyloniens qui en déportent une petite partie à Babylone et qui détruisent le temple, donc en 587 avant notre ère. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de choses dans tout ce qu'on a dans l'Ancien Testament vont être soit écrites, soit relues et révisées. Donc c'est un moment vraiment très important, et tout ce qu'on a dans l'Ancien Testament doit être lu un peu à la lumière de cette époque de crise. Puis pour le Nouveau Testament, bah c'est la passion et la crucifixion de Jésus qui est le moment, hein, de crise totale, à partir duquel on va se mettre à écrire des choses. Ce qu'on lit sur ce que Jésus a fait dans les évangiles n'est pas écrit par des gens qui prenaient des notes au moment où Jésus parlait. Hein, ça a été écrit après. Après la passion. Donc, déjà, se dire ça, que ces écrits sont des écrits de crise, pour nous, ça peut être important, parce qu'on ne peut quand même pas dire qu'on vit dans un monde, que notre planète est un beau paradis pacifique et un joyeux fleuve tranquille. Hein. Donc, voilà, se souvenir que ces écrits sont des écrits de crise, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important. Donc, une littérature de crise, et puis c'est aussi un texte pluriel. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce texte, c'est que c'est un texte qui lui-même fait entendre des voix différentes. Alors, là aussi, on va prendre un exemple, Genèse 1 à 3. Bon, l'histoire de la création. Genèse, donc on a ce Genèse 1 où on a un énorme panorama de l'univers, hein, avec Dieu qui crée en 7 jours avec 10 paroles, toute cette organisation où tout consiste à séparer, hein, chaque chose à sa place, les oiseaux dans le ciel, les poissons dans la mer, à séparer d'abord l'eau de la terre, le ciel de la terre aussi, etc. Et donc, on a ce grand panorama de Genèse 1. Et puis après, on a Genèse 2, 3, où on a Adam et Ève, l'histoire du jardin, de la pomme qui n'est pas une pomme, enfin bon. Et Genèse 2 et 3 n'est pas la suite de Genèse 1. Genèse 2 et 3 est une autre façon de raconter quelque chose sur nos origines. Et ça raconte pas, là encore, c'est pas un journal qui raconte à quel moment ces choses se sont passées, mais c'est une façon de donner deux récits différents avec une théologie différente. Puisque là, on pourrait dire la théologie de Genèse 1, c'est de dire pour que les choses aillent bien, il faut lutter contre le chaos. Et le chaos, c'est quoi? C'est du mélange. Donc, il faut arrêter de mélanger. Donc, il faut séparer. Donc ça, c'est la théologie hein, de Genèse 1. Alors que Genèse 2, 3, ça se passe dans un jardin, on n'est pas du tout dans une dimension cosmique, mais on va reprendre des choses qu'on connaît un peu d'ailleurs, enfin des images de paradis qu'on a chez les Perses, chez les Babyloniens, etc. Et on va en faire autre chose. On va dire, par exemple, Genèse 2, ça se termine par la création de l'homme et de la femme, hein, alors que, en Genèse 1, c'est ce qui arrive à la fin, hein, alors qu'en Genèse 2, 3, Dieu les modèle assez rapidement, et puis il va les mettre au centre. Hein. Et donc l'idée, c'est que ce couple humain hein, qui va devenir le centre de l'œuvre de Dieu et donc de ce qui va se passer après, pas toujours de façon très très simple, mais on est dans une théologie complètement complètement différente. Donc et c'est comme ça tout le temps hein, dans la Bible. Alors certains disent oui, mais dans la Bible il y a tout et n'importe quoi parce qu'un coup ils disent une chose, un coup ils disent le contraire. C'est pas ça non plus. Mais il y a des points de vue, parce que les gens qui ont écrit ont des cultures différentes, viennent de milieux différents. Il y a certains textes qui sont écrits par des prêtres, il y a certains textes qui sont écrits par des laïcs, il y a certains textes qui sont écrits dans une tradition prophétique, hein, d'autres plutôt une tradition de sagesse, et voilà. Tout ça, on va pas... Ce qui est tout à fait intéressant, je trouve, aussi par rapport à notre façon de penser aujourd'hui, c'est que dans ces textes, on ne choisit pas une théologie. Enfin, il y a des choses très précises qui sont dites sur différents thèmes, mais on va pouvoir avoir des textes qui, soit à l'intérieur d'eux-mêmes, soit par rapport à d'autres textes, vont discuter de comment Dieu agit dans le monde, de comment on peut penser l'histoire, de toutes sortes de choses. Et donc cette conversation des textes est fondamentale, et c'est une des choses qui nous manque le plus aujourd'hui, de pouvoir discuter, de pouvoir entrer en conversation, de pouvoir voir qu'il y a chez l'autre aussi peut-être une part de vérité et qu'on n'est pas obligé de tout de suite s'injurier et de s'envoyer des versets bibliques à la figure ou d'autres armes plus fatales hein, pour exister. Donc cette dimension du texte pluriel, des voix divergentes, des voix diverses qu'il y a dans les textes, c'est aussi quelque chose de très important. Et par exemple, sur ces textes de Genèse 1 et 3, ça veut dire, est-ce qu'on raconte quelque chose qui s'est passé au début de l'humanité, hein, ou est-ce qu'on raconte là une sorte de processus, hein, avec Genèse 2, 3, qui va se rejouer chaque fois que l'humanité s'interroge sur ses origines, hein. Donc quelque chose qui continue. Alors, donc ça, c'était mon deuxième point, le texte pluriel. Un troisième point aussi qui me semble important, c'est que ces textes ne sont pas des textes modèles. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher dans la Bible ce qu'il faut faire, hein, comme une espèce de recette. Mais ce sont des textes que je pourrais appeler des textes miroirs. C'est-à-dire ils vont nous renvoyer un peu tout ce qui se passe dans l'humanité. Hein. Dans la Bible, vous avez des poésies, des cris de guerre, des cris de souffrance, des récits, des louanges, toutes sortes de choses qui constituent l'humanité, en fait. Et donc, c'est toute cette humanité-là qu'on peut retrouver. Et il ne s'agit pas de lire la Bible comme le récit de ce que l'on va faire, hein, mais comme une sorte de miroir qui nous dit, toutes les questions auxquelles vous vous affrontez aujourd'hui, il y en a déjà d'autres qui y ont pensé, hein, mais peut-être que c'est intéressant de voir ce qu'ils en disent, parce que ça peut nous aider à éclairer notre chemin pour aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on va lire, si on lit comme un texte modèle, hein, ça veut dire que ça va, on va en faire une référence normative, une loi, hein, pour légitimer certaines choses et pour ne pas en accepter d'autres, hein, sans prendre en compte le fait qu'on n'est peut-être pas dans la même, dans le même contexte culturel, hein, que ceux qui ont écrit ces textes, et que donc peut-être il faut repenser les choses autrement quand on est à un autre moment historique ou sous un autre ciel. Et par contre, si on le lit comme un texte miroir, on va le lire aussi comme un texte où il y a plein de ce qu'on pourrait appeler des images ou des métaphores. Hein. Les métaphores, c'est des choses qui nous portent ailleurs, qui enrichissent notre réflexion, notre imagination, un miroir de nos diverses réalités humaines, hein, plus ou moins désirées, plus ou moins acceptées, qu'on peut analyser, qui peut nous encourager à réfléchir et à inventer. Donc un miroir de plein d'expériences qui peut nous renvoyer à nos pratiques, mais à la lumière de cette parole vivante qui vient toujours nous interroger et nous chercher là où peut-être ça coince un peu. Le quatrième point, j'en ai cinq, hein, donc vous inquiétez pas. Le quatrième point, ça serait de réfléchir aussi au fait que ce texte de la Bible, il raconte beaucoup d'histoires de sortie. Si vous réfléchissez un peu à ce qui entre et ce qui sort dans ces textes bibliques, il y a beaucoup plus d'endroits où ça sort que d'endroits où ça entre. C'est-à-dire que c'est un des éléments essentiels, par exemple, de l'Ancien Testament, c'est l'Exode. Et l'Exode, c'est une grande sortie. Et l'exil, ça sera aussi une grande sortie. Et on va consacrer beaucoup plus de temps à raconter ça, et cet Exode, et ce séjour au désert qui va durer 40 ans avant de pouvoir entrer dans une terre où on entre, mais où on n'entre pas vraiment, où tout le monde n'entre pas, il y en a qui restent... il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de sortie. Pensez aussi aux histoires des évangiles. Jésus, il n'arrête pas de passer sur l'autre rive du lac, de revenir, d'entrer et de sortir de différentes maisons, etc. Donc cette image, qui est donc une des métaphores dont je parlais tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on entre, est-ce qu'on sort. Ça fait partie vraiment du fond des textes bibliques. Et ça c'est important, je trouve, aussi aujourd'hui, parce que d'abord, ça permet de relier des lieux et des temps différents. Parce que ces entrées et ces sorties, elles se font pas n'importe comment non plus. Et en fait, ça constitue un itinéraire. Si vous repensez à l'Exode, on va sortir de l'Égypte, on va passer 40 ans dans le désert, mais pendant ces 40 ans, il va s'en passer des choses. C'est un peuple qui va se constituer et qui va apprendre à découvrir son Dieu. Et sans doute que Dieu aussi, il apprend à découvrir son peuple. Et donc, c'est toute cette... tout cet itinéraire qui va se construire petit à petit. Et si vous lisez les évangiles, c'est pareil. Un évangile, ça construit un itinéraire de Jésus. Et les quatre ne le construisent pas de la même façon. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des lectures plurielles et que tout le monde ne dit pas la même chose dans les textes bibliques. Et que donc il faut chercher un peu pour voir justement ce que chacun propose. Mais voilà, il propose des itinéraires. Et donc, ça, c'est important parce que ça dit, il me semble aussi, que l'enracinement, c'est pas quelque chose qui est un point de départ. L'enracinement, c'est quelque chose qui est un futur, un point d'arrivée. Pour le dire autrement, ces itinéraires, ces parcours qui vont être créés comme ça par les textes bibliques, ils vont construire une certaine forme d'identité, hein, ce mot qu'on utilise tellement aujourd'hui. Mais ce qui est absolument fondamental pour moi dans les textes bibliques, c'est que cette identité, ça n'est pas quelque chose qu'on va chercher derrière nous, dans notre passé, hein, dans nos souches, dans notre fond judéo-chrétien, ou je ne sais, enfin tout ce qu'on nous raconte. Cette identité, elle est devant nous. Et ça, bah, ça change tout, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une identité de base à laquelle tout le monde devrait adhérer, c'est que l'identité, elle se construit. Elle se construit par l'expérience, par la réflexion, par le renvoi de toutes ces métaphores que la Bible nous présente. Et alors, du coup, quels sont les enjeux pour aujourd'hui, hein, de relire ces textes? Alors moi, j'en verrai en tout cas trois. Le premier, pour revenir à ce qu'on vient de dire, c'est que si on prend l'identité comme ça, hein, comme quelque chose qui est devant nous et qui va se construire avec la rencontre de tous les gens et les situations qu'on va affronter dans nos vies, ça va rendre très importantes les questions d'interculturalité et les questions d'hospitalité. En sortant d'un discours simplificateur ou polémique, hein, et en partageant des identités, en se racontant des parcours. Et les gens qu'on a à côté de nous ont tous des parcours, ont tous des identités, et prendre le temps de les écouter, ça peut aider aussi à pouvoir vivre ensemble. Et cette hospitalité, hein, qui est présente dans les textes, puisque les textes font de la place, hein, à différentes visions, à différents parcours, c'est aussi quelque chose qui, je crois, peut nous guider pour aujourd'hui. Il y a un ethnopsychologue qui s'appelle Toby Nathan, dont vous avez peut-être déjà lu des choses, hein, qui dit ça autrement. Il dit en fait, chacun de nous a une ombre, hein, et notre ombre, bah, c'est à la fois notre culture, ce qui nous est arrivé, nos expériences, nos souhaits, nos désirs, nos façons de vivre, etc. Et chacun a son ombre. Et l'hospitalité, ça signifie ne pas demander à l'autre de renoncer à son ombre et faire en sorte qu'il y ait de la place pour toutes nos ombres, la nôtre et celle des autres. Donc ça, c'est le premier enjeu et qui me semble absolument fondamental aujourd'hui dans la situation où nous vivons. Un autre point qui me semble important aussi, c'est relire ces textes, et ça je l'ai beaucoup fait sous différents cieux, avec un point de vue de genre. Voilà. C'est-à-dire que, entre autres, par exemple, si on lit ces textes avec des femmes au Nicaragua, par exemple, ben, on ne va pas forcément les lire de la même façon que si on les lit, je sais pas moi, ici, par exemple, hein, ou ailleurs. Mais avec moi, ce qui m'a toujours frappé quand on lit ces textes avec cette problématique de la place des femmes, hein, dans tout ce qui nous occupe, c'est que les textes bibliques, ils peuvent à la fois être des textes qui servent à maintenir les femmes dans une oppression et dans un rôle secondaire, avec des injonctions à l'humilité, à ne pas vouloir prendre la place des hommes, enfin tout ce qu'on entend dans tout un tas de discours. Donc ils peuvent servir à ça, mais ils peuvent aussi servir à toute une dynamique de prise de conscience et d'espoir, hein, et de pouvoir de transformation à partir de ces textes. Je vous raconte juste une toute petite expérience. Au Nicaragua, à la faculté de théologie protestante. Bon, il y a des programmes qui vont de former des moniteurs ou des monitrices d'écoles bibliques qui ne savent même pas souvent lire et écrire forcément, à un master en théologie avec du grec, de l'hébreu, etc. Et on a, à un moment, on a voulu faire un programme de formation biblique. Enfin, c'était une demande de beaucoup de communautés. Donc on a organisé tout ça sur 2 ans avec des petits cahiers. Les gens se retrouvaient quand ils avaient fini de travailler au champ. Voilà. Et dans chacun de ces petits cahiers, on avait fait une unité où on prenait plus un texte qui parlait des femmes ou on réfléchissait à cette question-là. Et à la fin, les femmes sont venues nous voir en nous disant « Mais nous, on aimerait avoir un programme plus approfondi pour nous, parce que les pasteurs, des fois, ils nous racontent des trucs, on n'est pas sûr que ça soit vraiment écrit dans la Bible. » Bon. Donc, on a fait ça, on a fait ce programme, et ça a été vraiment quelque chose qui a... Enfin, moi, j'ai vraiment vu comment ça a pu changer la vie de certaines femmes, hein, qui se sont dit « Pourquoi est-ce que j'étudierai pas ? Pourquoi est-ce que je ne travaillerai pas ? Pourquoi est-ce que je dois subir la violence de mon mari qui me frappe et qui me prend mes sous ?» Et donc, il y a eu des vrais changements de vie dans la vie de ces femmes à partir d'un travail biblique. C'est quelque chose qu'on a un peu du mal à imaginer aujourd'hui ici, parce que voilà, c'est souvent pas comme ça que ça se passe, mais je peux vous dire que ça fonctionne, hein, et qu'on voit, des choses tout à fait particulières. Et donc, ça signifie poser d'autres questions au texte aussi, hein, se demander, quelle figure d'oppression ou quelle figure d'espérance peuvent nous aider. Je prends un exemple, toujours avec l'histoire des questions de métaphore aussi. J'ai travaillé un moment alors c'est pas un thème sur lequel on me demande souvent d'intervenir, mais il y a dans l'Ancien Testament un certain nombre de femmes qui sont sur des ânes, et je me suis intéressée à ces femmes assises sur des ânes. Voilà. Et ben, quand on va regarder ça, par exemple, alors je peux vous dire qu'il y a beaucoup de collègues masculins exégètes que ça n'a jamais intéressé, hein, d'aller savoir ce qui se passait avec les femmes sur les ânes. Mais si on regarde ça, il y en a 3 en particulier. Alors je vous en parle que d'une là, parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de tout. Une que d'ailleurs personne ne connaît en général, elle s'appelle AXA. Elle n'a pas créé une société d'assurance, hein. Et c'est une femme qui est dans le livre des juges, qui est déjà un livre que voilà, on ne lit pas forcément abondamment. Et dans le premier chapitre du livre des juges, il y a ce petit personnage d'AXA qui est la fille d'un vaillant guerrier qui dit « Celui qui combattra telle ville, je lui donne ma fille en mariage. » Et cette fille, c'est AXA. Bon, il ne lui a pas demandé son avis. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc il offre sa femme, sa fille, en récompense de valeureux services guerriers. Et puis c'est Othniel qui gagne la bataille, donc qui va être le premier juge qui, bah, du coup, reçoit AXA en prime. Hein. Mais cette AXA, elle va, juste après son mariage, aller voir son père, monter sur un âne, et elle va lui dire « Tu m'as donné des terres sèches, des terres complètement stériles, hein, donc maintenant tu vas me donner de l'eau. » Et son père lui donne de l'eau. Alors ça a l'air de rien, hein, comme histoire, cette affaire-là. Mais en fait, on voit comment on a une femme qui va prendre une initiative, aller demander quelque chose et avoir plus de justice par rapport à ce qui a été fait pour elle, hein, et qui va le faire à la fois en respectant tout un protocole, parce qu'elle vient sur son âne, elle le salue, etc., mais avec une détermination énorme qui fait qu'elle va obtenir ce qu'elle veut, hein, et pas par les armes ou par... mais avec une espèce de, on dirait aujourd'hui, de gestion positive des conflits, hein, qui fait qu'elle obtient ce qu'elle veut. Mais ça, par exemple, c'est une image tout à fait intéressante de comment, quand on est un groupe de femmes qui n'a pas droit au titre de propriété, par exemple, dans les coopératives où on ne prend que les hommes comme propriétaires, vont pouvoir mettre en place quelque chose, une action qui va leur permettre d'obtenir ces titres de propriété, par exemple. Vous voyez, donc il y a là toute une série de choses qui sont tout à fait intéressantes à relire. Hein. On pourrait donner plein d'exemples, relire le livre de Ruth aussi à partir des réalités d'aujourd'hui. C'est tout à fait intéressant. Donc voilà, poser d'autres questions au texte, trouver d'autres figures comme ça, changer et ne plus être dans cette théologie du défi ou théologie d'être les champions de quelque chose, hein, mais au contraire, prendre les expériences comme elles se posent. Et finalement, je dirais que un enjeu vraiment important dans la lecture de la Bible, c'est que lire ensemble. Parce que c'est pas seulement lire tout seul, hein. Lire ensemble, ça rend plus intelligent pour comprendre le monde dans lequel on vit, hein. Être plus conscient de ce que nous croyons, nous éduquer mutuellement à penser autrement, hein. Et poser des questions légitimes. Qu'est-ce que c'est qu'une question légitime ? C'est toute question qu'on se pose. À condition de la poser sans connaître déjà la réponse, hein, ou sans vouloir la réponse qu'on attend, c'est-à-dire une vraie question ouverte, où on ne sait pas quelle va être la réponse. Et ça, cette lecture collective, communautaire de la Bible, ça permet de nous donner des outils pour faire de la théologie, pour grandir, parce que nous sommes théologiens et théologiennes. En tout cas, en protestantisme, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Et nous pouvons aussi élaborer nos réflexions théologiques, les expliquer, hein, et écouter celles des autres pour établir ce dialogue et faire ce travail d'hospitalité dont je parlais, en incluant... le fait que nous ne sommes pas les premiers à lire ce texte, que donc on a derrière nous toute une série aussi d'histoires, d'expériences, de traditions que nous pouvons reprendre. Pour en fait restituer en parole ce qui est donné comme texte, puisque notre Bible c'est un texte, hein, c'est de l'écriture, mais elle devient parole. Mais elle ne devient pas forcément parole automatiquement, ça demande... un peu tout ce travail que je viens un peu d'évoquer, parce que finalement, ce que nous croyons, enfin notre foi, c'est pas une foi en la Bible, c'est une foi en Christ. Hein. Et donc, la Bible est un des outils pour pouvoir y arriver. Voilà.
Vous venez d'entendre l'intervention du pasteur Corinne Lanoir lors de la 56e rencontre œcuménique de Belloc qui s'est déroulée le 1er mai 2025 au monastère Sainte-Scolastique des Bénédictines à Urth. Le thème de cette 56e rencontre œcuménique de Belloc, Bible, comment je te lis aujourd'hui. La semaine prochaine, même jour, même heure, sur cette même antenne, nous vous proposerons l'intervention de l'abbé Michel Garat, bibliste.